France Inter. Ali Badou. Le 7-9.
Mercredi 15 janvier, bonjour à tous, bon réveil et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, les jours de Ségolène Royal comme ambassadrice des pôles sont comptés. Selon une information France Inter, c'est dans 9 jours précisément, le 24 janvier, qu'elle devra quitter son poste. L'exécutif ne supporterait plus ses critiques récurrentes sur la politique du gouvernement et elle semble se préparer pour 2022. Les autres titres, Agnès.
Un déport bloqué au 42e jour de la grève contre la réforme des retraites. Est toujours au cœur des discussions la prise en compte de la pénibilité. Les aveux en demi-teinte de Bernard Prénat face à la douleur des victimes. Le procès de l'ex-prêtre se poursuit aujourd'hui à Lyon. Un accord commercial entre la Chine et les États-Unis dont on ne connaît pas encore les détails. Et puis vous n'aurez bientôt plus besoin de votre trousseau de clés, toujours là où vous ne le cherchez pas.
Invité de France Inter ce matin à 7h50. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Ali. La France Insoumise veut déposer une motion de censure contre le gouvernement sur la réforme des retraites, mais le PS et le PC ne suivent pas. L'union de la gauche, c'est pas encore pour maintenant. On en parle avec la députée France Insoumise Clémentine Autain.
À 8h20, le grand entretien de la matinale avec le directeur général de l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, Martin Hirsch. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert et sur l'application France Inter.
France Inter. Avis de tempête sur la banquise. Ségolène Royal, médiatique ambassadrice des pôles, n'est pas encore officiellement démise de ses fonctions, mais c'est imminent. Selon une information que vous révèle France Inter ce matin, c'est donc le 24 janvier que Ségolène Royal se verra notifier la fin de sa mission. Le 24 janvier, jour où le Conseil des ministres présentera la réforme des retraites, celle-là même que l'ancienne candidate socialiste à la présidentielle n'a cessé de critiquer. Des propos qui ont donc fini par excéder le gouvernement. Une rupture, Yael Gauz, en forme de coup d'éclat, comme souvent avec Ségolène Royal.
Une ambassadrice des pôles et surtout de la popole, tacle ses détracteurs au gouvernement. Qui imagine un préfet réclamer l'abandon de la réforme des retraites? C'était sa liberté de parole, rétorque ses soutiens, comme le député de Mayenne, Guillaume Garot.
Pourquoi faudrait-il aujourd'hui qu'il y ait finalement un régime spécial pour Ségolène Royal? Manifestement, sa parole dérange.
Plus que ça, elle exaspère le Quai d'Orsay. Tous les ambassadeurs, Jean-Yves Le Drian en est le garant, sont astreints à un devoir de réserve. Que Ségolène Royal ait dépassé les bornes n'étonne personne dans l'ancien monde, ni le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan, ni le républicain Éric Ciotti.
J'ai l'impression qu'elle recherchait ce licenciement, se faire passer pour une victime, et je crois qu'elle est en train de réussir son objectif.
Ce que je regrette, c'est que Mme Royal ait appelé avec tant d'énergie à la présidentielle à voter M. Macron. C'est-à-dire, je trouve extraordinaire tous ces gens qui ont appelé à voter pour lui et qui maintenant s'en mordent les doigts. Mais enfin, bon, écoutez, au moins, elle a reçu la grâce.
Et garder la flamme, elle continue de réunir ses proches, la petite équipe de la présidentielle 2007, de la primaire 2011. Et dans les réunions, on y parle de plus en plus de 2022, de la nécessaire alternative au duel Macron-Le Pen. Fidèle à elle-même, Ségolène Royal occupe le terrain. Libérée d'épaule, elle démarre un Tour de France des municipales après Toulouse, étape à Marseille demain, puis Montpellier, pour soutenir la gauche et pas la politique d'Emmanuel Macron.
Soutenir la gauche et les grévistes au 42e jour de la grève contre la réforme des retraites. Des actions et des rassemblements locaux sont prévus dans la journée. Plusieurs grands ports sont ainsi bloqués depuis hier et jusqu'à demain. À Marseille, la compagnie Corsica Linea annonce ce matin être obligée d'annuler 18 traversées prévues jusqu'à vendredi. Sur le fond, Édouard Philippe a insisté hier sur la nécessité d'un équilibre financier qui, selon lui, passera par une mesure d'âge. Les négociations se poursuivent aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale. Elles se poursuivent également sur la pénibilité. Les Échos ce matin détaillent un possible futur congé de conversion qui permettra à un salarié ayant accumulé un certain nombre de points sur son compte pénibilité de disposer de 12 500 euros pour financer une formation. Difficile en effet de continuer à travailler la nuit en portant des charges lourdes passé un certain âge. Elia Bergel a rencontré un salarié usé par des années de travail pénible.
À 47 ans, Éric Bernier n'est pas sûr de pouvoir passer sa retraite à jouer avec ses petits-enfants ou à jardiner. Après 22 ans de nuit dans l'usine chimique où il travaille à Andrézieux, son corps commence à s'user.
J'ai de plus en plus de mal à récupérer. Bon, avant chef d'équipe, j'ai commencé au plus bas. J'ai énormément de problèmes de dos, j'ai de l'arthrose et j'ai que 47 ans, quoi. Au bout du bout, je pense pas pouvoir aller jusqu'à 64 ans, non.
Le corps dans le dur et la tête qui trinque aussi pour Éric et ses collègues.
Beaucoup de monde qui travaille de nuit, qui font de l'apnée du sommeil. Là, pendant les périodes de Noël, j'ai passé 14 heures à dormir, quoi, par jour, pour pouvoir récupérer ce que je faisais pas habituellement avant, quoi.
Grâce au point des pénibilités, Éric peut partir à 62 ans en retraite, mais le mal est déjà fait.
Moi, quand j'ai commencé, on portait les charges à la main. On arrivait à porter par poste de travail jusqu'à 6 ou 7 tonnes par jour. Maintenant, on utilise des mécaniques, mais bon, à partir du moment où la casse elle est faite dans les premières années, le corps il est cassé tout au long de la vie, quoi.
Une casse qui ne se répare plus, une espérance de vie plus basse que la moyenne. Le travail de nuit est directement lié au cancer, selon une étude, notamment au cancer du poumon chez les femmes.
Reportage d'Elie Abergel de France Bleu, Saint-Étienne-Loire. Côté transport, l'amélioration se poursuit avec 80% des TGV et TER, 75% des Transiliens et 50% des Intercités en circulation. Sur la ligne B du RER, la continuité est rétablie avec la RATP, permettant la traversée de Paris sans interruption. 5 lignes de métro sont encore touchées par une interruption du trafic en milieu de journée et des stations fermées. La mise en garde ce matin du gouverneur de la Banque de France sur les crédits immobiliers. La baisse historique des taux attire de nombreux candidats à la propriété, d'où un endettement record des ménages. Face au risque de surchauffe, la Banque de France rappelle que les échéances ne doivent pas dépasser 33% des revenus et que la durée du prêt ne doit pas excéder 25 ans. Dans le cas contraire, les banques pourraient se voir contraintes de provisionner une surcharge en capital. Il est 7h06 sur France Inter. La personnalité, le passé de Bernard Prédin seront au cœur des débats aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lyon. Hier à l'ouverture du procès, l'ex-curé de la paroisse Saint-Luc de Sainte-Foy-lès-Lyon a tenté de minimiser les faits des agressions sexuelles commises sur de jeunes scouts dans les années 80. Il m'a fallu du temps pour découvrir que c'était mal. Corinne Audouin suit le procès à Lyon pour France Inter.
À la barre, Bernard Prédin demande pardon, exprime ses regrets, bat sa culpe pour chaque victime venue dire l'une son adolescence saccagée, l'autre ses difficultés intimes, une troisième la culpabilité qui l'a longtemps hanté. Le prévenu adopte un ton détaché, répète des phrases qui se ressemblent comme un automatisme. Difficile de cerner l'homme derrière cette posture, même son avocat Frédéric Doyer s'y refuse.
Vous l'entendez, je pense que vous n'avez pas besoin de mon analyse pour avoir une idée sur cette question. Vous avez des victimes qui s'expriment, qui avec beaucoup de tristesse, de difficulté et de douleur expliquent ce qu'elles vivent depuis des années. Et vous avez une rencontre qui est une rencontre avec l'auteur qui est le responsable de cette douleur.
Les clés sont peut-être à chercher du côté de l'histoire personnelle de Bernard Prénat que le tribunal va examiner aujourd'hui en remontant aux agressions sexuelles qu'il aurait lui-même subies enfant, puis aux premiers faits commis quand il avait 16 ans. Les experts qui l'ont examiné en 2016 ont décelé chez Bernard Prénat un profil de pervers sexuel. Il doutait alors de sa capacité à prendre conscience de la gravité de ses actes. Lyon, Corinne Audouin, France Inter.
Et le procès se poursuit jusqu'à vendredi. Accord en vue entre la Chine et les États-Unis. Après presque 2 ans de bras de fer, Donald Trump et le vice-premier ministre chinois s'apprêtent à signer aujourd'hui la phase 1 d'un accord âprement négocié. Grégory Philippe, c'est à Washington pour France Inter.
Les détails de cet accord commercial ne seront dévoilés qu'à la mi-journée après la cérémonie de signature organisée à la Maison-Blanche. Mais selon les États-Unis, la Chine est prête, afin de rétablir un peu la balance commerciale entre les deux pays, à acheter plus de produits agricoles américains, plus de produits manufacturés, des voitures, des avions, ce qui est une bonne nouvelle pour Boeing. Les montants seront précisés tout à l'heure, mais le mois dernier, Donald Trump avait évoqué une enveloppe totale de 200 milliards de dollars. Il ne s'agit toutefois que de la phase 1 de l'accord. Washington prévient d'ailleurs, il n'est pas question pour l'instant de lever les tarifs douaniers de 25% imposés à 250 milliards de dollars d'importations chinoises. En revanche, d'autres tarifs seront réduits de moitié et une autre partie annulée. Pour Trump, l'annonce de ce demi-accord est en tout cas une bonne nouvelle politique. À 10 mois de la présidentielle, les agriculteurs américains notamment ont beaucoup souffert ces 2 dernières années avec de grandes difficultés à exporter leurs produits et leur soja en particulier. Cette pause dans cette guerre commerciale sino-américaine parlera sans aucun doute à cet électorat. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Donald Trump, dont le procès en destitution devant le Sénat débutera mercredi prochain et devrait durer 6 ou 7 jours. Washington encore, qui soutient la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui ont engagé une partie diplomatique difficile pour contraindre l'Iran à revenir au respect de ses engagements nucléaires, sans menacer toutefois de déclencher de nouvelles sanctions qui tueraient l'accord de 2015. En bref, encore les Libanais de nouveau dans la rue hier pour exiger la formation d'un nouveau gouvernement et dénoncer la grave crise économique politique qui mine le pays. Des heurts ont éclaté devant la banque centrale à Beyrouth, faisant plusieurs blessés.
7h10 sur France Inter, la suite du journal et cette question. Comment éviter les virus en cette période d'épidémie de gastro et de grippe?
Question que se posent aussi les sportifs de haut niveau. Les clubs de foot, notamment, tentent de laisser les virus à la porte du vestiaire. Entre les entraînements, les déplacements, les matchs et aussi les célébrations des buts, les possibilités de transmission sont en effet multiples, Cédric Guillou.
Précaution et vaccination sont les maîtres mots dans les clubs professionnels. Quasiment tous les joueurs se font vacciner contre la grippe dès la mi-octobre, dès que le vaccin est en fait disponible. Patrick Vieira est l'entraîneur de l'OGC Nice.
C'est vraiment essayer d'être attentif avec le doc par rapport à comment se sentent les joueurs. Et si un joueur qui se sent pas très bien, le renvoyer à la maison.
Chaque joueur possède aussi à l'entraînement et en match sa propre bouteille d'eau numérotée. En période d'épidémie, les clubs demandent également à leurs joueurs de limiter au maximum les contacts dans le vestiaire. Christian Gourcuff, l'entraîneur nantais.
Sur des précautions d'usage, en se lavant les mains, en essayant aussi dans des phases très aiguës de ne pas se dire bonjour par exemple, ça minimise les risques.
Et quand un joueur est touché, il faut vite réagir, précise l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel.
Si le doc considère que c'est contagieux, le joueur repart avec une prescription pour ne pas contaminer d'autres joueurs ou le reste du groupe.
Il n'y a pas encore eu dans l'élite du football français de report significatif de matchs comme en Espagne par exemple où au début de l'année, le match de D2 entre Saragosse et le Sporting Riron a été reporté. Une dizaine de joueurs de Riron étant touchés par le virus de la grippe.
Enfin, vous vous apprêtez peut-être à fermer la porte de votre appartement pour partir travailler, mais que faire si vous avez oublié? Grâce aux serrures connectées, plus besoin de clés. Un smartphone ou une montre connectée suffit pour déverrouiller une porte. Tendance lourde lors du CES qui vient de s'achever à Las Vegas. Mode d'emploi signé Sébastien Sabiron.
Ai-je bien fermé à double tour? Serais-je rentré à temps pour le livreur? Où est donc passé mon trousseau de clés? Des préoccupations d'un autre siècle, si l'on en croit Jean-Marc Prunet, directeur accès et sécurité chez Somfy, qui s'apprête à lancer sa serrure connectée.
Vous pouvez créer des clés virtuelles que vous allez pouvoir donner à quelqu'un qui a oublié ou perdu ses clés, un enfant par exemple, ou à quelqu'un qui a besoin de manière temporaire d'accéder au domicile, que ce soit pour des livraisons, pour de l'assistance à un malade ou à une personne âgée, ou qui met son appartement en location. Ça s'adresse à tout le monde.
Coût de l'installation entre 4 et 500 euros pour une serrure qui détecte aussi les tentatives d'intrusion. De son côté, la start-up Havre propose une serrure qui se déverrouille grâce à la lumière, moins piratable sur le papier que le Wi-Fi ou le Bluetooth. Alexandre Ballet, directeur technique chez Havre.
On va utiliser tout simplement le flash qui équipe les caméras de smartphone, le faire clignoter. Donc ça va ressembler à du code Morse qui va bien évidemment changer à chaque fois qu'on va l'utiliser. Et ça permet justement à la serrure de savoir si cette personne-là a accès ou non à l'instant T et déverrouiller automatiquement la porte.
Les fabricants de serrures connectées assurent que leurs technologies sont ultra sécurisées, mais il faudra aussi accepter que dans son entreprise, comme à la maison, le responsable des serrures connaisse désormais dans le détail toutes vos allées et venues.
Et puis maintenant, effectivement, Ali, il ne faudra plus perdre son portable.
Non, en effet. Merci Agnès Soubiran.